RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La troisième étape de ce Tour de France, troisième épisode riche en rebondissements avec, on vous le rappelle, cette terrible chute collective qui a mis au tapis un bon nombre de coureurs tout à l'heure, dont le maillot jaune Fabien Cancellara qui semble en difficulté actuellement à l'arrière de la course, alors que devant un homme vient de s'échapper. Nous sommes à 17 km de l'arrivée, le top course avec Fred.
RMC Top Course.
17 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on est dans la côte des rêves. Deuxième difficulté de la journée, un Europcar vient de sortir du peloton, le peloton où l'on trouve à nouveau tous les favoris. Ce coureur, c'est Angelo Tulik, néophyte du Tour de France, qui ressemble de près au puncher son coéquipier Cyril Gauthier. On est au sommet de la côte des rêves et ce sont désormais les Sky de Christopher Froome qui étirent le peloton avec les Astana de Nibali et les Tinkoff Saxo de Contador. 16 km 500 à parcourir, vous avez tout compris, les grosses armadas sont en train de placer leur leader parce qu'il reste la côte de Chérave, mais surtout le mur de Huy, terme de cette spectaculaire troisième étape du Tour.
Alors les grosses armadas sont à l'avant, Cyril, mais il ne me semble pas voir beaucoup de maillots bleu, blanc, rouge de la formation FDJ, l'équipe de Thibaut Pinot. Où sont-ils et que font-ils ?
Oui, Thibaut Pinot est rentré sur le groupe de tête, mais rappelez-vous, ils ne sont rentrés qu'à 4 avec Bardet, avec Valverde et avec Van Avermaet. Il ne peut pas y avoir énormément de coureurs à l'avant. On a vu la Danews qui a été lâchée. On vient de voir demain, il y a un coureur malheureusement qui est parti à l'hôpital. Donc dans le peloton, au maximum, vous avez 6 coureurs.
Oui, ouais. Le coureur parti à l'hôpital, on le rappelle, c'est William Bonnet, par qui tout est arrivé. Lui qui a touché une roue à 60 km de l'arrivée, entraînant cette gigantesque chute collective qui a provoqué la neutralisation de la course. Cette fois, on fait bien la course. Thibaut Pinot est bel et bien là, Romain Bardet également, tout le monde est là, seuls les sprinteurs sont en train de décrocher et Fabian Cancellara, le maillot jaune, principale victime de la chute, qui lui navigue à près de 2 minutes désormais. La course est repartie sur des bases folles. Les Sky veulent absolument positionner de la meilleure manière Christopher Froome. Thibaut Pinot est aux alentours de la 15e position. Les BMC à l'avant également. Tout le monde est groupé. L'attaque d'Angelo Tulik était pour aller grappiller les premiers points pour le Grand Prix de la Montagne. Mais ce fut un feu de paille. 15 km 400 de l'arrivée, la course est véritablement lancée cette fois.
La course, alors, côté français, vous avez Barguil qui est également à l'avant de la course.
Ouais, voir une Barguil qui effectue un très bon début de tour.
Qui devient leader de son équipe.
Puisque Tom Dumoulin, le Hollandais, troisième du général, a abandonné. Tous les Français, Cyril, sont là puisqu'il y a eu un regroupement général après que Valverde, Bardet, Pinot et Van Avermaet soient rentrés. Les deux pelotons s'étaient regroupés. Désormais, c'est un scénario logique et classique. Ce sont les sprinteurs qui sont en train de passer par la fenêtre parce qu'on est dans des côtes. Et Cancellara qui décroche parce qu'il est blessé. Cette fois, la course a totalement et logiquement repris ses droits.
Messieurs, avant que nous attaquions les choses sérieuses, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner non seulement le jeu de société L'Échappée Infernale, mais également, mais oui mon cher Lucho, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot aux éditions Talensport. Et puis surtout, et là, écoutez, ouvrez bien vos oreilles, une place VIP, ultra VIP pour l'étape du 19 juillet entre Mende et Valence, une nuit dans un hôtel 4 étoiles.
Avec Cyril Guimard.
Il ronfle trop. 4 étoiles, avec le petit-déj. Ne pas oublier le petit-déj, s'il vous plaît. Le transport aller-retour depuis votre domicile, que vous habitiez n'importe où, le transport en taxi ou comme vous voulez. Un tour de vélo matinal avec un ancien gagnant du Tour de France. Quel sera-t-il ? Lequel sera ? Bah ça, on verra tout à l'heure. Votre accès VIP privilégié au village des Paris, au Car Club. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le gros gâteau. 20 minutes de vol en hélicoptère au-dessus de la course pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelez le 3216 Touchis ou envoyez RMC par SMS au 732-16, bonne chance.
Ah, c'est envoyé.
Skoda vous emmène sur les routes du Tour. Skoda, partenaire officiel du Tour de France.
Allez, 13 km 600, on reprend nos esprits, on redevient sérieux parce que là, les choses sérieuses vont commencer, mon Fred.
Eh oui, les Sky toujours à l'avant de la course et à l'avant du peloton. Richie Porte, l'ancien champion d'Australie, est en train de mener tambour battant le peloton avec un Cancellara qui a d'ores et déjà perdu son maillot jaune. Il navigue, le Suisse, à 2 minutes 30. du peloton, un peloton qui est à 13 km 400 de l'arrivée. On va se rapprocher de la côte de Chérave. On est sur le final de la classique, la Flèche Wallonne, avec, on le rappelle, cette arrivée en haut du mur de Huy. Cette fois, on étire le peloton pour arriver le mieux placé en bas du mur de Huy pour ne pas prendre de cassure et pourquoi pas viser une victoire de prestige sur cette troisième étape du Tour.
La moto RMC, notre petit guerrier Georges Quirino à l'avant de la course.
Et oui, grand chef, avec devant le peloton où on voit la route qui devient de plus en plus sinueuse. Hein. C'est un tracé toboggan là, ça monte, ça descend, même des côtes qui ne sont pas répertoriées. La route qui est de plus en plus étroite, on a des virages très sinueux, une grosse épingle à gauche notamment que les coureurs vont devoir affronter dans quelques instants. Il va falloir être très prudent dans les quelques kilomètres qui s'en rapprochent désormais pour les coureurs qui sont de plus en plus en file indienne derrière nous. Ça va très vite.
Ouais, des descentes très dangereuses, très techniques.
Oui, très technique, avec un virage carrément en épingle sur la gauche qui sera difficile à négocier. Donc attention aux coureurs et surtout aux favoris.
Très bien, ça descend pour l'instant, mais ça va remonter. Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, la côte de Chérave et le mur de Huy, combien ? Ça peut monter jusqu'à 25%, Fred.
Oui. Quasiment 25%. Si on prend à l'intérieur, effectivement, à 450 mètres de la ligne, on est sur du 25%. Si on prend à l'extérieur, c'est 20%, ça reste redoutable.
Promis, craché, juré, on revient dans un instant.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Le final de cette troisième étape mouvementée du Tour de France entre Anvers et Huy. On se rapproche tout décemment de l'arrivée, puisque nous arrivons aux 10 derniers kilomètres.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Les 10 derniers kilomètres de cette étape, et devant, ça n'amuse pas la galerie, mais alors pas du tout, Fred Adam.
Oui, avec un mauvais souvenir pour Christopher Froome, s'il se souvient bien de ce qui lui est arrivé ici même en avril dernier, lorsqu'il était venu sur la Flèche Wallonne pour se mettre le final de cette troisième étape et le mur de Huy dans la tête. Il avait chuté et il n'avait pu terminer avec les meilleurs dans le mur de Huy. Cette fois, c'est différent. Ce sont les Sky qui emmènent le peloton avec Richie Porte et Geraint Thomas, relayé à l'instant à 9 km 500 de l'arrivée par les Tinkoff Saxo de Contador. Vous ne rêvez pas, on n'est ni dans les Pyrénées ni dans les Alpes, mais bel et bien dans les Ardennes belges. Les grosses équipes des principaux favoris pour le classement final sont en train d'étirer le peloton.
Un petit mot sur nos Français. Sont-ils là? Sont-ils bien placés? Ont-ils une chance de faire quelque chose dans cette arrivée, dans ce final, Fred?
Tout le monde est là. Thibaut Pinot est un peu livré à lui-même après la chute de William Bonnet. Mathieu Ladagnus n'a pas l'air au mieux. Il a vite sauté quand la course a repris ses droits après la fameuse chute collective qui a neutralisé tout à l'heure la course pendant un quart d'heure. Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault sont bel et bien présents. Maintenant, il va falloir faire parler la puissance et l'audace pour venir se positionner dans les 30 premiers, parce qu'au pied du mur de Huy, au-delà de la 30e place, c'est fini.
Ouais, Cyril, la tactique est très importante évidemment, parce que c'est une montée très très courte mais très raide, et il faut évidemment être bien placé, parce qu'ensuite on ne rattrape pas le retard accumulé dans les premiers mètres de l'ascension. Hein.
Ah non, c'est totalement impossible, à moins d'être supersonique. Et on se rend bien compte que cela a beaucoup d'importance, puisque toutes les équipes de leaders se battent en tête pour placer leur leader. Mais on a pu voir aussi, c'est qu'il faisait descendre très très vite, ce qui fait que tout le monde était en file indienne, de façon à n'avoir aucune surprise, et faire en sorte que Froome d'un côté, puisque c'est les Sky qui faisaient la descente avec Richie Porte, on prend aucun risque, mais en allant très très vite.
On prend aucun risque, comme tu y vas. On a vu les coureurs, le peloton là.
On prend aucun
dans la descente.
Mais c'est pas parce qu'on descend vite qu'on prend des risques. On prend des risques quand on va au-dessus. Mais le problème, c'est de ne permettre à personne de revenir de l'arrière, ou quand vous voulez revenir de l'arrière, ce qui peut être le cas d'ailleurs pour Thibaut Pinot, eh bien vous êtes obligé de revenir dans le vent quand vous arrivez sur les parties planes.
Fred, la côte de Chérave dans quelques instants pour l'avant-garde du peloton, c'est moins raide que le mur de Huy, mais tout de même quand même. Hein.
Oui, tout de même, c'est aussi long, 1 km 300 à 8% de moyenne, la côte de Chérave où l'on avait vu en avril dernier Vincenzo Nibali attaquer. Il n'était pas dans la même condition qu'il ne l'est en ce début juillet au départ du Tour de France, mais il s'était testé, il avait voulu anticiper les débats à prévoir sur le mur de Huy. Il avait été relayé par le local, le belge de l'équipe Lotto Soudal, Tim Wellens. Wellens que l'on devrait voir dans les hectomètres à venir. Nous sommes désormais au pied de la côte de Chérave, les premiers hectomètres sous les roues des coureurs de l'équipe Etix Quickstep et Tinkoff Saxo à l'avant de la course. Etix Quickstep qui compte en Michal Kwiatkowski, le champion du monde, une bonne carte pour le mur de Huy. À surveiller également dans cette armada Quickstep, Rigoberto Urán, le Colombien.
Alors que les hommes de Chris Froome viennent de s'effacer et que ce sont les coéquipiers d'Alberto Contador qui prennent maintenant la direction des opérations en tête de course, ils sont tous de jaune vêtus. Le maillot jaune, on a des nouvelles du maillot jaune,
oui,
Fred.
Oui, Fabian Cancellara, pris dans la chute massive à 60 km de l'arrivée, souffre du bas du dos et navigue à plus de 4 minutes 30. Il a perdu le maillot jaune. On peut attendre Tony Martin en jaune ce soir, l'équipier de Cavendish et de Kwiatkowski chez Etix Quickstep. Tony Martin actuellement en 5e position, 4e position. C'est lui qui pourrait faire la bonne opération générale ce soir.
Cyril, les leaders font rouler leurs équipiers à toute vitesse. Est-ce qu'ils ont peut-être une idée derrière la tête? Est-ce qu'un Contador, est-ce qu'un Froome peut faire quelque chose dans l'ascension du mur de Huy tout à l'heure?
Oui, mais chaque seconde est bonne à prendre. Donc on durcit la course, on l'a durcit avec Rogers tout à l'heure et Machka qui passe à l'offensive. On a vu aussi un accrochage et des coups d'épaule entre tout simplement Froome et un équipier de Bardet. Ça chauffait énormément. Ils auraient même pu en venir aux mains.
Ah oui.
Mais et pour l'instant ça monte tellement vite que on a à l'avant Froome en 3 ou 4e position sur une côte, alors que nous sommes dans le Tour de France et que nous allons avoir des grands cols. Eh bien on se bat de la même façon.
Ouais, c'est étonnant, hein, Lucho, de voir des coureurs retardés comme ça dans une côte de 4e catégorie alors que le Tour a démarré depuis 3 jours seulement, hein.
Oui, c'est évident, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu la chute. Psychologiquement, il y a des coureurs qui ont été quand même atteints par cette chute, et puis peut-être qu'aussi il y a des coureurs qui savent très bien que dans le mur de Huy il ne va pas se passer grand chose pour eux et qui préfèrent garder leur force pour le reste du Tour de France, parce que le Tour de France est long et ils auront besoin peut-être par rapport à leur leader qui soit à leur côté pour les étapes de montagne. Donc ils essayent de brûler le moins possible de force avant les Pyrénées.
Luc, le mur de Huy, tu connais parfaitement bien. Tu as bien failli il y a quelques années remporter la Flèche Wallonne. Ouais, tu as été battu par un certain Laurent Jalabert. Pas de beaucoup, mais c'est terrible le mur de Huy. Hein.
Ah, mais c'est terrible.
C'est quoi,
c'est
on
terrible.
Est en apnée quasiment sur les 1,3 km.
C'est terrible parce que c'est comme le disait Fred tout à l'heure, c'est des passages à 20, 21, voire 25%. Ça dépend comment on prend les virages. Et il faut tout donner. On est, je dirais, à 100% de ses possibilités, du pied jusqu'en haut. Il ne faut pas se relâcher. On est, je dirais, au plus haut niveau, au niveau de l'intensité cardiaque. Et je dirais, c'est plus au punch. Ce n'est pas des purs grimpeurs qui gagnent forcément le mur de Huy. C'est vraiment des punchers qui grimpent, bien sûr, mais des vrais punchers. Donc, tout comme Purito aujourd'hui, qui est un vrai puncher et qui pourrait éventuellement gagner.
Voilà, Purito, Rodriguez et Alejandro Valverde, les deux Espagnols qui font évidemment partie des,
qui sont des favoris.
Favoris. Fred.
Oui, sommet de la côte de Chérave avec toujours Rafał Majka, le Polonais coéquipier de Contador chez Tinkoff Saxo, qui passe en tête à la bagarre avec le Colombien de l'équipe Trek, Julian Arredondo. Retenez ce nom, il pourrait nous surprendre tout à l'heure dans 5 km 400
à l'arrivée. Attention,
Thibaut Pinot qui est en train de décrocher sur le haut de la côte. Apparemment, il a pris une cassure. Il compte avec lui un équipier, mais il va avoir bien du mal à rentrer. Il reste 5 km à parcourir. Cyril, comment Thibaut Pinot peut être piégé à 5 km dans la côte de Chérave alors qu'il reste encore une quarantaine de coureurs dans le peloton?
Non, il n'est pas piégé, il n'a pas les jambes pour accompagner. Oui. Il ne peut pas être piégé dans une ascension comme ça. S'il a les jambes, il n'y a aucun problème pour suivre. Il est capable de suivre les meilleurs grimpeurs et les meilleurs rouleurs en temps normal. Mais je pense que tout simplement, il est dans un jour sans. Peut-être que sa contre-performance d'hier, ou tout au moins le temps qu'il a perdu, l'ont marqué psychologiquement et qu'il n'y est peut-être plus.
Et il risque de perdre à nouveau beaucoup de plumes dans quelques instants, parce que s'il est en difficulté dans la côte de Chérave, qu'est-ce que ça va être dans le mur de Huy dans quelques minutes?
Non, mais là, c'est une minute assurée.
Ah oui, au minimum une minute, parce que si tu veux, le peloton, il y a quand même un gros peloton devant Pinot. Il va y avoir certainement des grosses cassures dans le peloton. Pinot va pas pouvoir passer entre les coureurs qui seront lâchés dans ce mur de Huy.
De toute façon, à la vitesse.
Non, c'est une minute au minimum.
À la vitesse où ça va finir.
Tout droit dans la descente. Dans la descente après cette ascension. l'ascension de la côte de Gérave, un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. Rassurez-vous, c'est un équipier. Il me semble que c'est Michael Rogers ou Rafał Majka qui a tiré tout droit dans un virage à droite dans l'ombre sous les bois. Il ne s'est pas fait mal à 4 km de l'arrivée, mais il a failli emmener l'ensemble du peloton dans ce tout droit assez spectaculaire. Il y en a des choses qui se passent sur la route du Tour. On est dans le final de cette troisième étape, finale à spectacle, pas de casse pour les favoris, mais les équipiers laissent des plumes évidemment. Moins de 4 km à parcourir et Thibaut Pinot est en train de perdre gros parce qu'il a laissé du jus hier dans l'étape des digues, parce qu'il a encore laissé du jus tout à l'heure pour rentrer alors que le peloton a été scindé en deux. Et il me semble que c'est Roman Kreuziger qui a tiré tout droit plutôt que Michael Rogers. En tout cas, à 3 km 500 de l'arrivée, c'est désormais Geraint Thomas, le coéquipier de Christopher Froome, qui emmène son leader à l'avant du peloton. En troisième position, Alberto Contador avec Rafał Majka. En troisième rideau, on aperçoit Gianpaolo Caruso et Joaquin Rodriguez, les deux punchers de l'équipe Katusha. Également présent Vincenzo Nibali dans les 10 premiers, Peter Sagan dans la 15e position environ, avec Michal Kwiatkowski. Kwiatkowski qui parle dans son émetteur. Kwiatkowski a un problème à 3 km de l'arrivée. Il semble avoir crevé. Il attend, en tout cas, il se laisse rétrograder.
Ah, c'est évidemment pas le meilleur moment pour crever, parce que là, personne ne va l'attendre. On ne va pas neutraliser la course. Ils ne sont plus qu'une une trentaine hein, dans le groupe de tête.
C'est bien épuré, hein, là. Hein.
Oui,
bien épuré.
Avec le champion du Luxembourg, Bob Jungels, coureur de l'équipe Trek, qui vient se positionner à l'avant. Thibaut Pinot, lui, est relégué à une quinzaine de secondes le long de la Meuse maintenant, à l'approche de Huy-la-Ville, mais l'arrivée n'est pas jugée en bas de cette ville. Elle est jugée tout en haut après 1 km 300 d'ascension à plus de 10% de moyenne, avec des passages à 20% en haut du mur de Huy.
Une nouvelle journée sans pour Thibaut Pinot que l'on avait vu en grande forme lors de la première étape, ce chrono où il avait battu tous les leaders, et depuis c'est la Bérésina pour le leader de la FDJ qui ne va pas bien. Hier pris dans la bordure, aujourd'hui lâché à la régulière dans la côte de Chourave, qui accuse une quinzaine de secondes de retard, qui ne va sans doute pas pouvoir rentrer sur le groupe de tête et qui risque même de perdre encore plus de secondes, voire des minutes dans l'ascension du mur de Huy, même si c'est assez court, on vous le rappelle, 1 km 300, mais parfois ça monte à 25 degrés, donc ça va être évidemment très difficile pour Thibaut Pinot, qui est en train de dire adieu à la victoire dans le Tour et peut-être même au podium dans ce Tour de France.
Frère. Moins de 2 km à parcourir, 1 km 700, il y a une grosse trentaine de coureurs dans le peloton pour se jouer la victoire au sommet du mur de Huy. Tous les favoris sont là, Quintana, Nibali, Contador, Froome, mais pas Pinot. Romain Bardet est encore dans le coup dans ce groupe, Alexis Villermoz également pour AG2R la mondiale. C'est Bob Jungels, le champion du Luxembourg, coureur de l'équipe Trek, qui est en train d'anticiper. Il a pris une vingtaine de mètres d'avance. On est à 1 km 300 de l'arrivée.
1 km 300 de l'arrivée, soit le pied du mur d'Huy pour les coureurs du peloton, avec ce groupe de tête évidemment, d'où on vous le rappelle est absent Thibaut Pinot. Les autres Français sont là. Le début du mur d'Huy, est-ce que c'est difficile? La flamme rouge dans quelques instants, la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Lucho, le dernier kilomètre, à quel endroit que c'est le plus dur dans ce mur d'Huy?
C'est dur partout dans ce mur, donc de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, celui qui veut gagner doit attendre un petit peu de savoir comment vont gérer les grands favoris, et c'est peut-être dans les 500 derniers mètres qu'il faut faire vraiment l'effort pour pouvoir gagner le mur d'Huy. Il faut surtout pas attaquer au pied, parce que c'est long, c'est dur. Des passages à 25% à la corde, donc très attention, les 500 derniers mètres seront capitales pour pouvoir gagner.
Fred,
800 mètres de la ligne d'arrivée, mais ce sera long, les 800 mètres les plus longs de ce Tour de France, tellement ils sont raides. Michal Kwiatkowski, le champion du monde, est hors jeu pour la victoire. Notez la présence à l'avant du peloton désormais de Gianpaolo Caruso, coéquipier de Purito Rodriguez au sein de la Katusha. En deuxième position, Christopher Froome. En troisième position, Tony Galopin, avec dans sa roue Bauke Mollema, le Hollandais. On aperçoit Rodriguez remonter. Alexis Villermoz est en 7ème position, le grimpeur de poche de l'équipe AG2R la mondiale, avec dans sa roue Vincenzo Nibali et à ses côtés TJ Van Garderen.
Voilà, Tony Galopin qui prend la tête même de la course en ce moment.
Trop tôt.
Est-ce que c'est... Ouais, c'est peut-être un peu tôt, non?
C'est un peu tôt, mais la course n'est pas encore véritablement lancée.
Oh là là, ça frotte en tout
avec Froome qui frotte d'ailleurs depuis longtemps. Hein.
Christopher Froome qui passe sur la droite de la chaussée et qui vient effectivement bousculer Tony Galopin. Ça passe comme dans du beurre pourtant. 500 mètres de la ligne d'arrivée. Christopher Froome emmène dans sa roue Alberto Contador et Gianpaolo Caruso. Pour Rito Rodriguez, Tony Galopin toujours 4e, Van Garderen 5e, Guillermo 6e, Bauke Mollema 7e. Les gros sont en train de s'expliquer à 450 mètres de la ligne.
Froome et Contador, les deux hommes de tête, les deux grands favoris désormais de ce Tour de France qui se livrent à mano énorme avec
Pourrito, attaque.
Pourrito qui attaque sur le côté droit gauche de la route.
400 mètres de la ligne d'arrivée, Joaquin Rodriguez vainqueur ici même au sommet du Mer de Huy de la Flèche Wallonne en 2012. Accélération de Pourrito qui emmène dans sa route Tony Galopin qui tient toujours. Galopin qui accroche Rodriguez, 3e Christopher Froome. Ce trio est en train de se décrocher à l'avant derrière la cassure est faite. TJ Van Garderen emmène dans sa roue Villermoz, mais le trio Rodriguez, Galopin, Christopher Froome est en
Pourrito,
train de s'envoler avec Rodriguez qui semble au-dessus du lot.
Voilà, Pourrito Rodriguez, l'Espagnol, le petit cigare qui est en train d'acheter
tout le monde. Et
Chris Froome qui est en de revenir. Tony Galopin en 3e position mais qui ne pourra pas jouer la gagne. Pourrito Rodriguez qui va sans doute remporter cette étape, cette 3e étape devant Chris Froome dans quelques instants.
Pas sûr du tout, Christopher Froome est en train de revenir avec un tout petit braquet. Pourrito Rodriguez lui est en danseuse à 150 mètres de la ligne. Contador a lâché prise quand Rodriguez a attaqué. Christopher Froome s'accroche à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Rodriguez qui refait le coup de 2012 sur la Flèche Wallonne. Victoire de l'Espagnol âgé de 34 ans, leader de l'équipe Katusha qui devance sur la ligne. Christopher Froome 3e place pour Alexis Villermoz. Dan Martin est 4e, Tony Galopin est 5e, Van Garderen 5, Vincenzo Nibali.
Toujours pas de Contador, toujours pas de Contador pour l'instant.
Et Contador va lâcher tout de même plus de 17 secondes sur la ligne sur Rodriguez et Christopher Froome.
Voilà, Alberto Contador battu par Chris Froome souverain et surtout Pourrito Rodriguez. Nibali est là et évidemment toujours pas de nouvelles de Thibaut Pinot qui va accuser pas mal de retard à l'arrivée de cette 3e étape. Cyril, Froome a montré qu'il était peut-être redevenu le favori de ce Tour de France.
Oui, et ben c'est évident, on l'avait vu hier quand même à son avantage faire une étape très sérieuse, et alors que dans le contre-la-montre il était quand même un petit peu en deçà. Mais on avait vu contre la montre par exemple que Contador avait eu du mal à finir, qu'il manquait de puissance. Et bien dans cette ascension, une nouvelle fois, il a montré qu'il lui manquait de la force.
La confirmation également de la méforme de Thibaut Pinot. 2e jour sans pour le leader de la FDJ que l'on voyait presque sur le podium à l'issue de la première étape et qui là va accuser peut-être 2 minutes à l'arrivée de cette 3e étape.
Il va lâcher en tout cas plus d'une minute 30, c'est sûr. Au classement général, si mes comptes sont bons, c'est Christopher Froome qui endosse ce soir le maillot jaune, lui qui était 10e du général ce matin et qui vient détrôner fort aisément Fabian Cancellara qui est à plus de 8 minutes maintenant. Thibaut Pinot est en train d'en terminer avec 1:32 de retard sur le vainqueur du jour. Pourrito Rodriguez, l'étape, Froome, le maillot jaune, les gros se sont expliqués au sommet du Mur de Huy.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée avec Alexis Villermoz, me semble-t-il, coéquipier de Bardet et de Pérou.
Après hier où j'ai pas mal d'énergie, ce matin, un peu mal à la tête, pas de l'eau pour la finale. Et la course qui s'est arrêtée, je crains.
Malheureusement.
La course se passe assez dure avant le Mur de Huy pour écrémer, parce que j'ai du mal à me placer. Et là, heureusement, la course était durcie. Avant le Mur de Huy, il y a eu moins de monde, ce qui m'a permis d'être placé et ça me démontait.
Vous avez connu beaucoup de galères en début d'étape, vous l'avez dit, il y a eu cette chute en plus. Elle va faire beaucoup, beaucoup de bien, celle-là, dans la tête notamment.
Oui, effectivement, c'est une belle place. Après, c'est pas une victoire. Et on sait que ce tour, que les victoires, c'est que les victoires qui comptent. Mais bon, voilà, vu mon parcours sur route, une 3e place aujourd'hui, c'est déjà un très bon résultat.
L'ambition va être revue peut-être un petit peu à la hausse. On va aller chercher peut-être une victoire d'étape d'ici la fin, ça va motiver encore plus.
C'est l'objectif de toute l'équipe d'aller chercher une victoire d'étape. Après, effectivement, j'ai pu me rendre compte que dans les bas, j'étais bien. Et j'espère tenir mon rôle important que je dois avoir en montagne pour aider Romain et JC.
Merci beaucoup, Alex.
Voilà. Alexis Villermoz, coéquipier de Romain Bardet et de Jean-Christophe Perrault, qui termine avec les cadors, Fred. 4e, je crois. Hein.
Troisième place pour Alexis Villermoz, qui fait de la route depuis 4 ans seulement.
Je peux vous confirmer le classement. Donc, général, Froome prend donc le maillot jaune avec 1 seconde d'avance sur Tony Martin.
Décidément,
Van Garderen est 3e à 13 secondes et Galopin, lui, est 4e à 26 secondes.
Mes comptes étaient bons. Christopher Froome qui endosse le maillot jaune 2 ans après s'être imposé sur le Tour de France. C'est un peu tôt. mais le mur de Huy a tenu toutes ses promesses. Alors c'est la victoire d'un spécialiste, puisque Joaquin Rodriguez est l'archétype de ce genre de coureur puncher, mais Froome est bien leader.
Pierre-Yves Leroux avec Jérémy Leroy, coéquipier de Thibaut Pinot.
Pierre-Yves ?
Oui, je suis là. Avec Jérémy Roy, effectivement, qui s'arrête en haut du mur de Huy. Merci, Jérémy. Quelle journée incroyable. Racontez-nous ce que vous avez vécu, vous, par rapport à ce que nous avons pu voir.
Je ne sais pas ce que vous avez pu voir, mais c'est vrai que c'était une journée difficile à décrire, parce que forcément, il y a beaucoup de tension au début de tour. Et les arrivées comme ça, c'est propice à des chutes, à de la tension. De toute façon, on le sait depuis la présentation du tour et c'est pas fini. Et là, la chute, les deux grosses chutes sont produites à 70 km/h avant l'entame de l'enchaînement des bosses qu'aurait fait la sélection. Donc, il fallait que tous les leaders soient placés. Forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde. En début de tour, tout le monde joue charmant sa place et personne cède. Voilà, il y a eu deux grosses chutes consécutives. Après, on n'a pas tout compris. Neutralisé, pas neutralisé. Ça repart en haut de la bosse, ça coupe les jambes. Nous, on a un équipier qui est tombé.
William Bonnet, effectivement.
William Bonnet, donc on a une pensée pour lui. Il est parti à l'hôpital. J'espère que tout va bien. C'est perturbant. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui se mêlent. C'est le Tour de France, c'est que du vélo, mais... C'est pas facile.
Ça a peut-être trotté d'ailleurs dans la tête de votre leader Thibaut Pinot, qui a eu du mal là sur les 5 derniers kilomètres et qui perd un petit peu de temps encore. Est-ce que vous avez eu des infos?
Oui, ça, de toute façon William il tombe juste devant Thibaut, donc il était bien placé à ce moment-là. C'est vrai que c'était assez perturbant. Après la tension n'a pas baissé, hein. Il a essayé de se ressourcer un petit peu, il a encore eu un petit coup de bordure, il a fallu faire des efforts. Il n'était pas placé de façon optimale, ça c'est sûr. Il a fait beaucoup d'efforts pour revenir au sommet de la dernière bosse, pour se replacer. Et puis finalement, à la relance en bas, il y a eu une cassure. Moi, j'étais dans le groupe qui suivait, donc je n'ai pas pu l'aider. Il s'est retrouvé isolé. Et voilà, il a limité comme il a pu, mais le Tour de France, c'est quand même 3 semaines. C'est sûr que vaut mieux éviter de perdre du temps. Mais comme on l'a vu aujourd'hui, tout est possible sur une course de vélo, le meilleur comme le pire.
Merci beaucoup Jérémy Roy, toujours disponible en haut du mur de Huy. Bonne soirée, bon courage.
Parce qu'il y a plein de bonnes raisons pour Jérémy Roy d'aller se reposer, d'aller se faire masser. La journée a été terrible. Fred, on rappelle donc l'arrivée de cette étape et le changement de maillot jaune.
Oui, prise de pouvoir ici au mur de Huy, en haut de cette montée qui aura fait la différence, évidemment. Prise de pouvoir de Christopher Froome, nouveau maillot jaune pour une seconde devant Tony Martin. Victoire ici au terme du kilomètre 300 d'ascension le plus raide de ce Tour de France, de Joaquin Rodriguez Purito pour les intimes, coureur espagnol, trentenaire, 34 ans, 1m69, 57 kg, le format de poche qui convient le mieux à ses ascensions sèches et très raides. Il devance ici sur la ligne d'arrivée Christopher Froome, donc, qui fait la bonne opération, et le français, le jurassien Alexis Villermoz, coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. 4e place pour l'Irlandais Dan Martin. Tony Galopin qui a résisté pendant longtemps à l'accélération de Rodriguez prend la 5e place. Van Garderen 6, Nibali 7, derrière Quintana prend la 9e place. Les gros ont répondu présent, mais Contador a lâché 17 secondes sur Rodriguez, une quinzaine de secondes sur Christopher Froome. On sait qui est qui après cette 3e étape sur le Tour de France.
Exactement, les 4 fantastiques, et bien des 4 fantastiques, il n'en reste quasiment plus qu'un, Cyril, à savoir Chris Froome qui a loupé la victoire d'étape mais qui va s'emparer du maillot jaune. Les autres, les autres ont été battus une nouvelle fois par Chris Froome. Le Britannique était pourtant annoncé comme le 4e, le moins bon des fantastiques au départ de ce tour. Comme quoi, vraiment, la vérité du tour, elle s'écrit au fil des étapes et non pas avant le départ de ce Tour de France. Chris Froome, désormais grandissime favori. Tu as été surpris par la toute petite défaillance de Contador aujourd'hui.
Est-ce une défaillance? Où est-il tout simplement à son niveau? Contre la montre, il n'a pas été excellent, sans être complètement largué. Hier, il est, mais ça on pourrait y revenir, il se retrouve devant comme Froome, mais parce qu'il y a une puissance collective qui permet de protéger le leader le plus longtemps possible, d'être économique dans le vent et donc de se retrouver dans la première bordure, et qui plus est quand on la provoque soi-même, c'est-à-dire qu'on se met en position d'avantage et on met à la rupture les adversaires qui vont rester dans le vent. Là, lorsque je l'ai vu dans cette montée, à un moment j'y ai cru un petit peu, d'un seul coup il s'est rassis, c'était fini. Et rappelez-vous ce que je vous disais à la fin du contre-la-montre du premier jour, les 200 derniers mètres, il n'avait pas de compression, il n'avait pas de force, il avait du mal à finir, il enlevait les dents dans la dernière ligne droite. Et bien là, il a fait la même chose, il n'a pas de compression, il n'a pas de force, il enlève les dents.
Pour toi, il aura du mal à gagner ce Tour de France.
Vous ne pouvez pas perdre 18 secondes sur un kilomètre sans que ça ait des répercussions. Il est maintenant à 36 secondes au classement général. Bon, après, le Tour n'est pas fini. Il y a encore les pavés demain. Et c'est quand même pas... Enfin, c'est ni Froome ni Contador qui sont des spécialistes des pavés, donc peut-être encore des renversements de situation demain. Le Tour ne fait que commencer.
Ouais, le Tour ne fait que commencer demain, effectivement. Les pavés, ce sera une autre paire de manches pour tous les coureurs de ce peloton. Lucho, Chris Froome, c'est la surprise, c'est la bonne surprise de ce début de Tour de France. Personne ne le voyait, enfin pas grand monde le voyait, même si les bookmakers anglais, hein, quand même, qui sont pas mauvais, lui donnaient les faveurs des pronostics. Mais nous, dans la Dream Team RMC, on ne le voyait pas battre les Contador, les Quintana, les Nibali. Évidemment, on n'en est pas encore à l'arrivée sur les Champs-Élysées, mais il n'empêche, aujourd'hui, c'est l'homme fort de ce début de Tour de France.
Oui, c'est vrai que contrairement au premier jour où on aurait pu, c'est vrai, on s'inquiétait un petit peu sur l'état de forme de Froome, enfin, en fin de compte, quand tu regardes un petit peu le chrono du premier jour, ceux qui ont fait une belle performance, aujourd'hui, ils s'effondrent pratiquement les uns après les autres. Et on ne voit que qui, Froome aux avant-postes, bon, Contador quand même qui est là, il a perdu un petit peu de temps aujourd'hui, c'est vrai comme le disait Cyril, mais enfin il faut pas trop s'alarmer par rapport à Contador. Peut-être que la pression, il a peut-être le coup de fatigue du Giro et de la route du Sud, peut-être que la pression va remonter un petit peu au fil des jours sur ce Tour de France avant d'aborder les Pyrénées, donc pas de panique au niveau de l'équipe Tinkoff de Contador. Après, Froome, c'est vrai que psychologiquement le coup qu'il a marqué aujourd'hui est très très important pour ses adversaires. Ça fait, il fait voir à ses adversaires, les gars, je suis là, je suis peut-être pas le favori du Tour, mais aujourd'hui je suis devant vous, et ça c'est très important pour la suite.
Des nouvelles des autres fantastiques, Fred, qui sont arrivés dans le premier groupe, je les ai, j'ai la 7ème place de Nibali qui termine à 11 oui. secondes, et Quintana termine quasiment dans sa roue, la 9ème place, hein.
9ème exactement.
À 11 secondes, soit devant Alberto Contador, hein, pour Nibali et pour Quintana. Bon, pas pour beaucoup 7 secondes, mais évidemment
oui,
ça compte
mais
quand
ils
même,
sont
hein.
hors du top 10, ils sont à plus d'une minute de Christopher Froome, Nibali et Quintana, alors que noter la 4ème place au classement général de Tony Gallopin à 26 secondes. Et il y en a un qui doit avoir les boules ce soir pour la 2ème fois de suite, Tony Martin.
Oui,
est 2ème du général pour une seconde. Hier, il s'était fait shipper le leadership par Cancellara. Le trophée des 25 000 euros ce matin à Anvers est allé dans la poche de Cancellara et pas de Martin. Martin qui s'est dépouillé dans le mur de 8 pour hisser son solide gabarit et qui est devancé par le jeu des bonifications d'une seconde seulement par Christopher Froome en tête du classement général. 1 Froome, 2 Martin à 1 seconde, 3 Van Garderen à 13 secondes, 4 Gallopin
oui.
à 26 secondes et Contador est donc à 36 secondes.
DJ Van Garderen, Cyril, il est là l'Américain.
Arrangé parmi les fantastiques.
Arrangé, oui. Les nouveaux fantastiques, alors.
C'est-à-dire qu'on en sort un du placard, on le remet dans les fantastiques, on en prend un autre, et puis celui-là, on le met dans le placard. Alors, je vais revenir à des choses plus objectives.
Oui, les fantastiques, je sais, ça ne fait pas.
Vous avez quand même sur l'étape 16e Jean-Christophe Perrault, 17e Warren Barguil, et 18e Julien Simon, 20e Pierre Roland, et ils sont à 24 secondes. Je n'ai pas le classement général, mais je pense
que. Et Romain Bardet, Cyril.
Alors, Romain Bardet est à 36 secondes au classement de l'étape.
Très bien. On va retrouver Pierre-Yves Leroux qui est en compagnie de Nasser Boigny, le sprinter de la formation.
Exactement. Covidis. Nasser Boigny derrière la ligne. Nasser, il y a eu la chute au championnat de France. Ça allait mieux.
Aïe, ça coupe. Ça coupe.
Et, compliqué encore aujourd'hui.
Ouais, journée compliquée, très nerveuse. Beaucoup de chutes. Ouais, j'ai été épargné heureusement aujourd'hui, mais. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de mal dans le peloton. Et je crois qu'il y a eu 70 coureurs qui ont été à terre. Nous, on a eu deux équipiers dans l'équipe Cofidis, donc j'espère pas trop grave.
On vous a vu effectivement emmené par Geoffrey Soupe sur le dernier sprint. Ça veut dire que les sensations sont plutôt bonnes. Il y a encore des risques demain avec les pavés. C'est très nerveux.
Oui, les sensations moyennes. J'ai fait le sprint. Hier, j'étais dans le groupe de 25, mais malheureusement, avec la chute, j'ai pas pu disputer le sprint, donc j'ai perdu beaucoup de points. Je vais voir dans les prochains jours pour le sprint, mais en tout cas, je vais quand même les disputer pour voir.
Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'à un moment, le peloton est reparti, ça s'est arrêté. Quelles informations vous aviez-vous?
Bon, voilà, c'est la direction du Tour de France qui a décidé de neutraliser suite aux chutes. Comme j'ai dit, il y a eu 70 coureurs par terre, donc c'était normal après de neutraliser la course. Mais après, vraiment, tout le monde était nerveux dans le peloton. C'est ça qui a causé les chutes. Les routes étaient vachement étroites. Donc, c'est ça qui était dangereux, quoi.
Merci beaucoup, Nasser Mbouani. Derrière la ligne avec, à l'instant, le maillot jaune de Fabian Cancellara qui vient de passer à côté de nous et qui rejoint son bus, évidemment, par cette journée qu'il n'attendait pas aussi négative.
Merci Pierre-Yves, donc pour la réaction de Nasser Mbouani, le sprinter de la formation Cofidis. On a des classements complets, Fred, là, hein, de tous les leaders et de tous les fantastiques ou pseudo-fantastiques.
Les favoris, prétendants au classement général. Christopher Froome, donc en jaune ce soir au terme de la troisième étape, pour une seconde devant Tony Martin. TJ Van Garderen, dauphin de Christopher Froome sur le récent Critérium du Dauphiné, est troisième à 13 secondes.
Ah, Vincenzo Nibali est en direct au micro de Pierre.
Nient'altro, bisogna stare attenti. Oggi, dopo lo sbaglio che abbiamo fatto ieri, abbiamo corso sempre davanti e proprio cercando
oui,
di evitare.
Oui, après ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, on devait courir devant. C'est pour ça che l'on a fait la course une fois che la course a été relancée.
Questi strappi non sono adattissimi alle mie caratteristiche perché sono molto esplosivi, però ho cercato di gestire lo sforzo dai piedi della salita fino alla fine. Froome ha dato un'accelerata delle sue.
Cette montée finale était très explosive, donc elle ne convenait pas forcément.
Anche se questa è una salita molto corta, però le salite saranno quelle vere più avanti. Però possiamo fare un piccolo quadro di quest'oggi, che era una giornata molto difficile, il caldo si è fatto sentire. Andiamo avanti un passo alla volta.
Voilà, Christopher Froome avait davantage le profil, le gabarit que Contador pour cette montée très raide. Et aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'était garder les places devant, courir devant pour perdre le moins de temps possible dans le mur de vie.
Difficile da interpretare perché penso che noi forse adotteremo un cambio bici per il pavé, quindi vediamo.
Allez, difficile d'interpréter les enseignements de cette journée selon Vincenzo Nibali. Demain, il va falloir faire un autre bilan avec un changement de physionomie d'étape, de profil d'étape et de machine également,
et
de machine, puisque on va adapter le matériel au pavé auquel se frotteront les coureurs du Tour demain. Ça va jouer tactique demain encore une fois.
Voilà, Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour de France, qui est ce soir 13e au général avec un retard d'une minute 38 par rapport au nouveau maillot jaune Christopher Froome. Contador est un peu plus haut dans le classement, mais enfin il a perdu du temps aujourd'hui. 8e le Pistolero à 36 secondes, et puis Quintana 17e avec un retard d'une 56. Il est derrière son coéquipier Alejandro Valverde qui est juste devant lui à la 16e place. Les Français sont un peu plus loin en tous les cas, Galopin déjà 4e, hein. Galopin, faut pas l'oublier, 26 secondes. L'année dernière, il avait revêtu le maillot jaune. Peut-être en sera-t-il de même cette année. Warren Barguil, 11e, avec un retard d'une 0,7. Et puis les autres, il faut aller beaucoup plus loin. Jean-Christophe Perrault est ce soir 21e au général, avec un retard de 2,07. Villermoz, son coéquipier, 22e à 2,26. Julien Simon, 24e à 2,45. Romain Bardet, 26e à 2 minutes 54. Et Thibaut Pinot dans la roue de Romain Bardet, 27e au général ce soir à 2 minutes 58. Hier soir, on se posait la question de savoir si Pinot avait perdu le tour. Ce soir, on en a la réponse, Cyril. Il n'y a plus de doute là-dessus. Hein.
Oh, c'est difficile de prétendre le contraire. Bon, on peut toujours essayer de se dire oui, bon, mais le tour n'est pas fini. Il y a encore des étapes, ceci. Bon, quand vous êtes à 3 minutes de Froome, 2,58, 2,51 et 2,58, par exemple, pour Bardet, vous avez Perrault qui lui est à 2,07. C'est difficile de pouvoir dire de façon crédible oui, je peux encore gagner le tour. J'ai peur demain que sur les pavés on perde encore du temps, parce que il faut savoir aussi, c'est que la situation là de Bardet, comme celle de Pinot, sur le plan psychologique, rappelez-vous, on les a mis quand même sur un piédestal avant le départ de ce Tour de France. Ok, on avait les quatre là dont on change les tuniques tous les jours, les quatre grands favoris. Et derrière, on se disait, mais les petits Français, ils vont être dans le coup. Les petits Français, ils peuvent, et pourquoi pas gagner le Tour. Et là, d'un seul coup, le premier Français, c'est Galopin, qui lui ne gagnera pas le Tour parce que les grands cols, il les passe pas suffisamment bien. Après, on a Warren Barguil qui, à la sortie, est également un bon grimpeur et qui devient pratiquement le meilleur grimpeur, enfin
le leader français,
pratiquement le leader français. Il est d'ailleurs maintenant le leader de son équipe. Il faut pas retirer parmi ceux qui peuvent venir, on va dire, sur une bonne place au classement général final. Eh bien, c'est Villermoz. Mais n'oublions pas qu'il y a un contre-la-montre par équipe aussi, où là, l'équipe AG2R
et la Française des Jeux aussi.
Et la Française des Jeux ne vont pas avoir tous les atouts pour pouvoir se défendre.
Oui, les deux prochains jours.
D'autant qu'ils ont eu pas mal de bobos dans la chute, plus que des bobos, des abandons même pour la formation FDJ, Fred, on le rappelle. Hein.
William Bonnet qui était à l'origine, on le rappelle, de cette méga chute collective à 60 km de l'arrivée, une chute qui a provoqué la neutralisation de la course arrêtée au pied de la côte de Boisseau par la direction de course pendant 15 minutes parce que toutes les ambulances étaient affairées et qu'il restait des coureurs à soigner. Si l'on avait immobilisé les ambulances auprès des coureurs blessés, il n'y aurait eu aucune ambulance pour couvrir une éventuelle grosse chute à l'avant de la course si la course avait poursuivi sa progression. William Bonnet qui est à l'hôpital, tout va bien à part des bobos fort logiques quand on chute à plus de 60 km/h.
Oui, il s'est pris tout le monde sur le dos.
Ah là là, c'était impressionnant, les images sont très parlantes et une fois de plus, chapeau bas messieurs les coureurs. Je parlais de Golgoth tout à l'heure, d'extraterrestres, des X-Men qui repartent à l'assaut.
Ce ne sont pas 4 fantastiques mais 198 fantastiques, hein, faut bien le dire. 70 coureurs, nous disait tout à l'heure Nasser Bouhanni, sont allés au sol.
Oui, non, je pense qu'il a pas bien vu, hein. Non.
Il y en a un peu moins à mon avis. Oui.
Cancellara, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous un peu plus tôt dans l'après-midi, le maillot jaune a perdu sa tunique dans cet incident, lui qui débourse plus de 6 minutes sur la ligne d'arrivée. Il a failli abandonner, il s'est relevé, il a fait signe au médecin qu'il ne voyait plus rien. Un vrai chaos pour le Spartacus.
J'ai la tête qui tourne.
Voilà, le Spartacus n'est pas infaillible. Cyril, Luc, vous avez fait partie de ce peloton de cyclistes professionnels et internationaux. Encore une fois, toutes nos félicitations pour avoir enduré ce qu'un coureur cycliste professionnel endure au quotidien.
Ouais, c'est sûr que lorsqu'on crache à la figure de ces coureurs cyclistes en leur reprochant de se doper, mais que ceux qui reprochent ça, évidemment, il y a des problèmes de dopage dans le cyclisme comme il y en a dans le sport en général, mais venez disputer une étape du Tour de France.
Ou ailleurs.
Ouais, non, mais c'est terrible. Chris Froome est donc en jaune ce soir. Peut-être tenons-nous là, le futur vainqueur de ce Tour de France 2015. Il vient de revêtir cette belle tunique jaune qui l'avait amené jusqu'à Paris il y a 2 ans, Fred. Et puis l'année dernière, l'année sans. Mais il est de retour, le Kényan blanc.
Ah, il a une revanche à prendre.
Kényan jaune même.
Sur les pavés, dès demain, il a une revanche à prendre. Lui qui avait abandonné, on s'en souvient, dans la première semaine du Tour l'an passé en direction d'Arambert. Et bien là, il abordera les pavés si tout va bien, s'il n'y a pas une nouvelle chute avant même ses pavés, une chute fatale. Il abordera ses pavés en jaune et il regoûte à ce parfum de jaune, même si évidemment, on le rappelle, il a remporté il y a quelques 3 semaines le critérium du Dauphiné. Christopher Froome qui est dans une forme optimale, au contraire peut-être d'Alberto Contador qui a lâché du temps aujourd'hui, 17-18 secondes sur la ligne et qui pointe à 36 secondes de Christopher Froome au général. Froome qui compte, on le rappelle, une petite seconde sur l'Allemand Tony Martin et 13 sur Van Garderen qui complète le podium du général.
Lucho, on est à 9 jours de la montagne. Chris Froome évidemment va avoir la responsabilité du maillot jaune sur les épaules. Est-ce qu'il doit tenter de conserver à tout prix ce maillot jaune ou vite s'en débarrasser, peut-être le refiler à un Tony Martin qui en rêve depuis deux jours, parce que ça fait deux jours qu'il a une seconde, pas du même leader à chaque
le problème,
fois.
Le
ou pourquoi pas un Tony Galopin. Voilà.
Le problème pour Froome et son équipe, c'est qu'il prend le maillot jaune un petit peu tôt. Et donc, quand tu vois Martin à une seconde, à la limite, ça serait bien que Martin aille faire quelques petites bonifs demain pour pouvoir récupérer le maillot oui. jaune.
Après Martin à voilà. la plage, Martin, ouais. à
Martin
la
sur les pavés.
Martin au bonif.
Ouais. Mais oui. Mais oui. Non, mais bon.
Moi, c'est peut-être la seule solution. Je peux vous dire, il y en a un demain qui va être sur coussin d'air. Il va avoir toute l'équipe à sa disposition. C'est pas le Tony Martin, c'est le Tony Galopin.
Eh oui, évidemment. Ah oui, oui, oui. Il est à la maison
guerre,
demain.
La guerre des Tony.
Il est à la maison demain, Tony Galopin. D'ailleurs, non, demain matin dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, il y aura un très beau reportage effectué par Georges Quirino. Vous pourrez l'écouter demain matin si vous vous levez tôt, mais je sais que vous vous levez tôt vous les auditeurs d'RMC, surtout pour écouter Tony Galopin. 26 secondes, il est là encore une fois, il confirme année après année, même si évidemment comme le disait Cyril, il pourra jamais viser la victoire finale dans le Tour de France, parce que les grands cols c'est pas son truc. Mais
non, mais c'est un top mondial. Oui. C'est un coureur qui fait partie des 10 meilleurs coureurs du monde, parfois des 5 meilleurs. Aujourd'hui, il était dans les 5 meilleurs. Il fait 5e en haut du mur de Huy, alors que ce n'est pas un gabarit très léger. En tout cas, ce n'est pas un poids plume. Il termine derrière Rodriguez, 1m69, 57 kg. Froome, qu'est-ce que l'éthique, qui donc a un rapport poids-puissance assez extraordinaire. Troisième, Alexis Villermoz, qui fait 1m74, mais qui est en dessous des 60 kg. Dan Martin est également un coureur très très sec. Tony Galopin, lui, a des allures de monsieur tout le monde. Je l'avais même trouvé pas enveloppé, je vais pas utiliser, mais on voit pas la veine sur le mollet de Tony Galopin. On ne voit pas les os sous son maillot. Ça veut dire que les chevaux sont incroyablement là sous le capot et qu'il les utilise à bon escient. Il a une culture cycliste immense, élevée par son papa et ses tontons, la fratrie Galopin, piqué au vélo Tony Galopin, qui d'année en année s'élève dans la hiérarchie mondiale. Il a déjà remporté la Classica San Sebastian, il a remporté une étape sur le Tour l'an passé et porté le maillot jaune. Il a ses limites, souvenez-vous, il avait manqué gagner Paris-Nice en début d'année, lui qui était en jaune au c'est pied vrai. Du contre-la-montre du Col d'Aise. C'est un super coureur et surtout un super coureur très complet, profil Jaja, mais à une autre époque.
Oui, et puis je pense qu'il fait une erreur en restant dans le rythme de
Purito.
De Purito. Il aurait dû laisser passer Contador et laisser passer deux ou trois coureurs de façon à ne pas se mettre dans le rouge et à pouvoir faire le final. Ouais. Je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais il pouvait finir à deux ou trois secondes.
Très bien, messieurs, on va se retrouver tout à l'heure entre Cyril Guimard reviendra dès 18h20 avec Virginie Fulpin pour répondre aux questions de Virginie, et puis évidemment à partir de 19h nos débats. En attendant, à 17h55 on va retrouver Fred Zermati et Cédric Yeta pour le récap course du jour. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous, bonjour Christophe, avec le café aujourd'hui qui se courait sur l'hippodrome de Compiègne. Et la victoire est revenue au numéro 3, Azubra, toujours lui dans le dos des animateurs. Elle s'est imposée assez sûrement devant la Sinuna, le gros poids de la course, qui a bien terminé. Le 11, Mouyeva, a également pris une belle troisième place devant le 4, Tarnag, et le numéro 13, Falcolina. 3, As, 11, 4 et 13, dans l'ordre 2 870 €, c'était une arrivée. Deux favoris, et pourtant, Gavir n'est pas tombé. Et demain, sur l'hippodrome de Châteaubriant, eh bien, nous allons avoir une belle tirelire de 4 150 000 €. Alors, Cédric, vers quelle concurrence tu es tourné?
Bonjour à tous. J'aime beaucoup le numéro 6, c'est Elmino Lais, un concurrent étranger entraîné par Fabrice Soulois, drivé par Franck Ivar, qui dispose aujourd'hui d'un bel engagement au premier poteau pour parcourir les 3000 mètres de l'hippodrome de Châteaubriant.
Mais écoute, je pense aussi que c'est un cheval qui doit avoir une belle carte à défendre. Moi, je vous conseille le numéro 16, Weissmann. Bien sûr, je me tourne vers un favori, mais je pense aussi que c'est un bon point d'appui. Et puis, ne faites pas si des chances également du numéro 3, Paparazzi. Attention à ce concurrent drivé par Dominique Zofneux, qui peut en tête mener la figure aux principaux favoris. Des bonnes infos, des bonnes affaires, c'est sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Elle est là, elle va prendre le relais. Alors pour le caillou, Virginie, il faut s'adresser à Fabienne Cancellara. Hein.
Ah oui, mais le pauvre, je crois qu'il
25 000 euros. Ouais. Donc voilà.
Voilà, je te faisais confiance, Christophe. Il faut que je m'adresse à Fabienne Cancellara finalement pour avoir ses diamants d'Anvers. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Christophe.
À tout à l'heure.
On va parler beaucoup de diamants parce que le tennisman australien Nick Kyrgios en a deux aux oreilles. Mais Richard Gasquet l'a battu quand même à Wimbledon. Il est en quart de finale. Eric Salio va nous raconter tout ça. Lewis Hamilton aussi a des diamants aux oreilles. On va parler de sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne avec les experts F1. Et puis Cyril Guimard, lui, n'en a pas, enfin je crois pas. Il sera avec nous avant 18h30 pour parler du maillot jaune de Chris Froome, pour parler de cette chute spectaculaire de la victoire de Rodriguez aujourd'hui au mur de Huy. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.